je pense que là on peut prier, puis après pour commencer directement. C'est pas prions, puis commençons l'étude d'aujourd'hui. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour que tu manifestes envers nous chaque jour, Seigneur. Seigneur, nous allons étudier ta parole. Seigneur, je te prie que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité selon ta promesse. Tu as dit que l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité, Père. Je te prie que tu puisses nous disposer le cœur à recevoir ta parole, à nous enseigner, Seigneur, afin que nous puissions nous rapprocher de toi. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Ok, commençons l'étude d'aujourd'hui. On va commencer et on va aller dans Matthieu chapitre 13. On va étudier la parabole du trésor caché. C'est un verset, mais c'est un verset dans lequel on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc Matthieu chapitre 13, on va lire le verset 44. Donc pour donner un peu de contexte, dans Matthieu chapitre 13, Jésus il enseigne à la foule au sujet du royaume des cieux en leur partageant des paraboles. C'est qu'ensuite, il renvoie la foule et il continue à enseigner ses disciples en leur expliquant non seulement le sens des paraboles qu'il enseignait à la foule, mais en partageant ensuite d'autres paraboles. Donc je dis pour vous, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc comme je vous dis, c'est un verset. Et on pourrait se dire que, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans ce petit verset? Donc on va essayer de décortiquer ce verset-là ensemble. Donc, Jésus, il enseigne au sujet du royaume des cieux. Et il commence, quand on regarde dans Matthieu chapitre 13, il commence les paraboles de la même manière, en disant le royaume des cieux est semblable à. Ensuite, continue, le royaume des cieux est encore semblable à. Donc, premièrement, c'est quoi le royaume des cieux? On va pas rentrer dans les détails, mais juste pour nous permettre de comprendre, un royaume implique un roi. Le royaume des cieux, on a le territoire, les cieux. Donc, c'est un territoire sur lequel un roi exerce sa royauté. Rien que dans le mot royaume, on a le mot roi. En anglais, kingdom, king. Donc, un royaume, c'est un espace, un territoire sur lequel un roi exerce sa royauté. Il gouverne selon ses principes. On pourrait même dire selon son bon plaisir en soi. Donc, en soi, celui qui veut faire partie de ce royaume des cieux, de ce royaume, restons dans la définition d'un royaume, celui qui veut faire partie du royaume, ben, implicitement, il accepte la gouvernance d'un roi. Donc, en acceptant la gouvernance d'un roi, tu acceptes ses principes, ses règles, la manière dont il dirige son royaume. Donc, en soi, Jésus, dans les paraboles, il commence ses paraboles, comme je l'ai dit, en disant le royaume des cieux est semblable à. Donc, en soi, il explique aux hommes les choses qui concernent le royaume des cieux. Donc, d'une certaine manière, la manière dont le royaume des cieux fonctionne, les principes qui sont à la base de ce royaume, comment le roi dirige son royaume. Pour qu'ensuite, ben, les hommes, quand ils comprennent, ils aillent chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Comme Jésus dit dans Luc chapitre 6, il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc après que les hommes cherchent le royaume des cieux, Jésus il explique un peu comment le royaume des cieux fonctionne. Et dans cette parabole, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Donc en gros, si on observe, on a un trésor caché dans un champ. Ensuite, un homme trouve le trésor qui était caché. Une fois qu'il le trouve, il le cache. Ensuite, le fait d'avoir trouvé le trésor, dans sa joie, il s'en va et il va vendre tout ce qu'il a. Il vend tout ce qu'il a dans l'objectif ensuite d'acheter le champ pour être propriétaire du champ et en soi pour que le trésor lui appartienne. Donc globalement, ce sont les actions un peu que Jésus décrit dans cette parabole. D'un homme qui trouve un trésor, il trouve le trésor, il le cache, il est joyeux, il va, il vend tout ce qu'il a, puis ensuite il achète ce champ. On va un peu dans un contexte socio-historique à l'époque où la parabole est donnée. Jésus, au premier siècle, on s'entend qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque. Donc, les gens qui avaient des trésors, qui avaient des biens de valeur, souvent pour les cacher, pour les préserver des brigands, ils préféraient les enfouir dans le sol ou les dissimuler dans un champ plutôt que de les casser, plutôt que de les laisser dans leur maison. On voit un peu dans la parabole des talents, par exemple, dans Matthieu 25, où Jésus il partage la parabole, puis il précise que celui qui a un talent, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'enfouir dans la terre, il va le cacher. Donc, c'était commun pour un habitant de la Palestine de l'époque de comprendre justement qu'est-ce que ça signifie que de cacher un trésor dans un champ, que de trouver un trésor enfoui dans un champ ou quelque part dans le sol. Donc, en soi, Jésus, il essaie d'expliquer le royaume des cieux d'une manière où les hommes de l'époque pouvaient comprendre. En leur parlant de choses quotidiennes, de choses qu'ils comprennent, auxquelles ils peuvent se référer facilement. Donc, en soi, dans l'étude d'aujourd'hui, on va essayer de voir deux éléments principaux. L'étude concerne, on va parler d'abandon de soi. Et on va voir comment justement, c'est quoi le lien entre cette parabole et l'abandon de soi. On va voir pour premièrement comprendre, le lien. On va voir comment cette parabole décrit le ministère de Jésus-Christ. Comment Jésus dans cette parabole décrit son ministère à lui-même. Comment il décrit le plan de rédemption et son œuvre. Puis ensuite, on va voir comment cette parabole s'applique à nous dans un second sens. Pardon. Donc, on va décortiquer le texte ensemble. Donc, en soi, comment le texte commence? Le royaume des cieux est encore semblable à un homme. Est encore semblable à un trésor caché dans un champ. On va essayer de comprendre c'est quoi le trésor, pourquoi il est caché, puis pourquoi c'est quoi le champ. Ensuite, on va essayer de voir un peu qui est cet homme, qu'est-ce que ça veut dire, genre, qu'il trouve le trésor puis qu'il le cache. Et ensuite, le sens derrière le fait qu'il va vendre et qu'il achète. Donc, premièrement, c'est quoi le champ? Pour comprendre c'est quoi le champ, on a juste à aller au verset 38. À quoi le champ fait référence dans cette parabole? On peut aller au verset 38. Matthieu 13, verset 38, où Jésus explique une autre parabole, en l'occurrence la parabole du grain de sénévé. Et ensuite, il dit, quand il explique la parabole à ses disciples au verset 38, il dit, le champ, c'est le monde. Donc, quand on retourne dans Matthieu 13, verset 44, dans notre parabole à nous, donc, le champ fait référence dans une première dimension au monde. Donc, ensuite, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le champ? La parabole nous dit que le trésor, il est caché dans un champ. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi le trésor et pourquoi il est caché. Mais au moins, on sait déjà que le champ fait référence au monde, que le champ, c'est le monde, comme Jésus l'a dit au verset 38. Donc, pour comprendre c'est quoi, pour décoder, décortiquer un peu tout ça, c'est quoi le trésor? On va aller dans dans Genèse chapitre 21. Donc, premièrement, on sait que le trésor se trouve dans le champ, donc dans le monde. Maintenant, c'est quoi un trésor? Un trésor, on s'entend que c'est quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui a une grande valeur aux yeux de quelqu'un. Donc, Matthieu, Genèse, là on est dans Genèse chapitre 26. Genèse 26 nous dit, à la création, Genèse chapitre 1, verset 26, pardon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu, il a créé Dieu dans Genèse chapitre 1, on a le récit de la création, et Dieu il crée toutes choses, et le point culminant de sa création, c'est la création de l'homme. Et il donne à l'homme la domination sur toute la terre, sur toute la création. Donc l'homme, est-ce qu'on peut considérer que l'homme est un trésor aux yeux de Dieu? Quand on regarde plusieurs versets dans la Bible, par exemple, Zacharie 2, verset 8, où Dieu parle de son peuple, et Dieu dit que celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Donc, on s'entend que Dieu est en train de dire que l'homme a de la valeur à ses yeux. Ou encore dans Ésaïe 43, verset 1. Verset 4, il dit, car tu as du prix à mes yeux, car tu es honoré et que je t'aime. Donc, l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu et l'homme se situe où? Sur la terre, dans le monde. Donc, si on retourne dans notre parabole, on a le trésor, c'est l'homme, il se situe où? Il se situe dans le monde. Je pense qu'on est clair jusqu'ici. Et ensuite, Jésus il précise que le trésor il est caché. Et qu'on peut se poser la question, mais pourquoi le trésor est caché? Alors on va retourner dans Genèse. On va faire l'aller-retour un peu. On va voyager dans la Bible aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 3, on va voir pourquoi l'homme est caché, pourquoi le trésor est caché dans le champ. Genèse chapitre 3, donc, qui parle de la chute de l'homme, on va voir que dans la Bible, l'idée de cacher ou d'être caché est souvent associée au péché ou à la conséquence du péché. Je lis pour vous Genèse chapitre 3, versets 7 et 8, qui nous dit, je vous donne un peu de contexte, après que l'homme Adam et Ève aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 7, il est écrit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, on voit ici que l'homme a péché et lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont se cacher loin de la face de Dieu. Le verset 10 nous dit, après que Dieu ait appelé l'homme en disant, où es-tu? Le verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, la conséquence du péché a conduit à ce que l'homme se cache de Dieu. On a encore cette idée-là dans plusieurs autres passages dans la Bible, où par exemple, Jonas, qui voulait pas obéir à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se cacher de lui, il a voulu s'enfuir loin de sa face. Ou bien même encore, dans Ésaïe 59, au verset 2, la Bible dit que ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui font qui nous cachent sa face. Et qu'on a cette idée justement où le péché conduit l'homme à être caché de Dieu. Alors, maintenant si on retourne dans notre parabole, le trésor, c'est l'homme. Il se situe dans le champ. Donc, l'homme se situe dans le monde parce qu'on a vu que Jésus, il dit que le champ, c'est le monde. Et le trésor est caché. Et on vient de voir pourquoi le trésor est caché. Parce que l'homme a péché et qu'il se cache de Dieu. Donc, dans la première partie de cette parabole, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit la situation de l'humanité, en fait. Il décrit la situation de l'humanité où l'homme est caché, l'homme, un trésor qui a de la valeur aux yeux de Dieu, il est caché de Dieu dans le monde à cause du péché. Vous allez voir, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'abandon de soi? Mais on va y venir. Maintenant, on va voir que dans la deuxième partie du verset, on va voir que Jésus, il décrit ce qu'il va faire lui-même. Il décrit ce qu'il a fait lui-même et ce qu'il allait faire lui-même. En disant, l'homme qu'il a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Comment on peut dire que Jésus-Christ, c'est l'homme qui trouve le trésor, qui va y vendre tout ce qu'il a pour l'acheter? On va voir, quand on regarde, on a différents verbes d'action. On a le verbe trouver, l'homme il trouve, il cache, il va vendre, il vend et il achète. Et quand on regarde toutes ces actions avec l'humanité. On va retourner dans Genèse au chapitre 3, lors de la création. Genèse chapitre 3, lisons à partir du verset 8. On a déjà lu le verset 8, où justement les hommes, Adam et Ève ont péché. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont eu honte, et ils se cachèrent loin de la face de Dieu. Verset 9, le verset dit, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Fait que l'homme s'est caché, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a cherché, il l'a trouvé. Et on peut se demander, mais comment est-ce que quelqu'un peut vraiment être caché de Dieu, au final? Parce que dans Job 34, verset 21, la Bible nous dit, car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. C'est que personne ne peut se cacher de Dieu. Et Dieu, parce que Dieu trouve tout le monde, il voit tout le monde. Mais le sens qu'il faut voir dans ce passage-là, il est équivalent à la parabole de la brebis égarée. Ou dans la parabole de la brebis égarée, Jésus dit, mais quel homme qui a 99 brebis, qui en perd une, ben il laisse ses 99 autres pour aller chercher la brebis qui s'est perdue, et lorsqu'il l'a trouvée, il la ramène. Et que c'est Jésus qui, alors que l'homme se cache à cause de son péché, il le cherche et il le trouve. C'est que l'homme, il trouve le trésor, Jésus, de la même manière que Jésus, après le péché de l'homme, il l'a trouvé, alors que l'homme se cachait. Ensuite, Jésus dit dans la parabole que l'homme qui a trouvé le trésor le cache. On pourrait se poser la question, mais pourquoi l'homme qui a trouvé le trésor il le cache à nouveau? Et on va trouver la réponse encore à la création. Ou on va voir comment comment Jésus a caché l'homme dans un certain sens. Toujours dans Genèse chapitre 21, où Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit, Genèse chapitre 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les en revêtit. Qu'est-ce que, quand, à quel moment, quand, quand Dieu, quand la Bible dit que Dieu fit à Adam et à Ève des vêtements de peau et les revêtit, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce que Dieu voulait cacher d'Adam et Ève? La Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont fait des vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu honte, ils ont voulu cacher leur nudité. Donc ils se sont fait des vêtements avec des feuilles, de figuier. Ensuite, Jésus les a retrouvés. Ensuite, Dieu les a retrouvés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a fait d'autres vêtements pour cacher leur nudité. Donc, et les vêtements, on sait que dans la Bible, les vêtements font référence à la justice. En l'occurrence, les vêtements de peau qui font référence à la justice de Jésus-Christ, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans cette parabole, lorsque Jésus trouve l'homme, pour le protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait des vêtements. Dans l'expérience d'Adam et Ève, il lui donne, il le cache, il cache sa nudité, il cache la culpabilité de son péché en lui donnant des vêtements. Et quand on regarde dans la parabole de Matthieu 13, l'homme, il trouve le trésor et il le recache. Pourquoi? Ben parce que le trésor ne lui appartient pas. Mais pour s'assurer que personne ne va le prendre, il le protège et il le cache à nouveau. Ensuite, qu'est-ce que l'homme va faire? Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Et c'est là où c'est un langage qui doit nous être familier, parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, acheter et vendre, on fait ça quasiment tous les jours. Donc, c'est une transaction qu'on fait tous les jours. C'est quoi acheter et vendre? En soi, la transaction, c'est quoi? C'est je laisse quelque chose qui m'appartient pour obtenir quelque chose qui ne m'appartenait pas. Par exemple, je laisse 20 dollars qui m'appartient, le 20 dollars qui m'appartient, pour acheter, je sais pas, un pack de bouteilles d'eau qui ne m'appartenait pas. Fait qu'on soit, on voit l'idée un peu de transaction. Donc l'homme qui trouve justement le trésor, qui le cache, ben il va et il vend tout ce qui lui appartient pour acheter le champ qui ne lui appartient pas. Quand on regarde dans la Bible, justement cette transaction, elle renvoie de vendre et d'acheter. Elle renvoie au fait de se débarrasser des choses, de se débarrasser de nos idoles, de se débarrasser des choses qui ont plus de valeur, qui ont de la valeur à nos yeux et qui ont plus de valeur à nos yeux que Dieu lui-même. En l'occurrence, quand par exemple Jésus il parle au jeune homme riche et il dit au jeune homme riche, le jeune homme riche lui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter du royaume des cieux, et Jésus lui répond, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis tu te feras un trésor dans le ciel, et ensuite viens et suis-moi. Ce que Jésus est en train de dire au jeune homme riche, d'aller vendre tout ce qu'il a qui est plus important que Dieu, d'aller se débarrasser de ses idoles afin de venir et de le suivre. Si on va aller directement dans Philippiens chapitre 2 pour comprendre ce principe un peu de vendre, de se débarrasser de quelque chose. Philippiens chapitre 2, puis on va lire le verset 7. On peut commencer à partir du verset 5. On va lire à partir du verset 5. Qui dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » Donc, quand on dit « je me dépouille moi-même », c'est de quoi? Que je fais le vide, je me débarrasse de tout ce que j'ai. Quand on regarde le son de dépouiller lui-même, c'est-à-dire il s'est vidé lui-même. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Quand on parle, par exemple, si des voleurs qui vont racketter quelqu'un, on va dire, oh, ils ont dépouillé cette personne, c'est-à-dire qu'ils ont pris tout ce que cette personne possédait. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Donc, il a vendu tout ce qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait. Et quand on réfléchit, si on regarde un peu rapidement, qu'est-ce que Jésus a donné? Qu'est-ce qu'il a laissé? Alors, on va pas aller dans tous les versets, mais j'ai réfléchi à ça un petit peu, puis au final, Jésus, il a laissé quoi? Il a laissé un royaume parfait, un lieu confortable, un environnement agréable dans le ciel, première chose. Donc, il a laissé un lieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a abandonné des relations. J'entends quoi par là? Dans Matthieu 27, verset 46, quand Jésus est sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou dans Luc 14, quand Jésus il dit, celui qui aime son père, sa mère, son fils et sa fille plus que moi, ou celui qui aime sa vie plus que lui-même, n'est pas digne d'être son disciple. Et quand on regarde Jésus, il s'est appliqué toutes ces choses-là. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la communion du Père, du Saint-Esprit, il a quitté la communion, sa relation avec les anges dans le ciel pour venir sur la terre et sur la croix pour se séparer. Quand on regarde encore qu'est-ce que Jésus a laissé, Jésus, il a quitté son trône, donc il a laissé le pouvoir. Comme on vient de lire, la Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est fait serviteur. Qu'est-ce qu'il a abandonné? Qu'est-ce qu'il a laissé d'autre? Il a laissé des choses qu'il aimait. Et une chose dont j'ai réfléchi qui m'a fait tilter, il a également laissé la louange dans le ciel. Donc la musique. Puis pour en tant que jeune, j'ai trouvé ça très intéressant. Que Jésus a laissé la louange du ciel. Il a laissé la musique. Alors, on voit que l'homme, il a tout vendu, comme Jésus, il a tout donné, comme Jésus, il s'est dépouillé lui-même, pour pouvoir acheter le champ. On va aller dans Apocalypse chapitre 5. Et on va lire le verset 9. Voir comment Jésus a acheté le champ. Apocalypse chapitre 5, verset 9, qui dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, la Bible nous dit que Jésus, il a acheté par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ou encore, on a plusieurs autres passages dans les Écritures qui nous disent qu'on a été racheté à un grand prix. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6 au verset 20, par exemple, ou encore Pierre qui dit que c'est pas par des choses périssables qu'on a été racheté, comme de l'argent ou de l'or, mais qu'on a été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, on voit que Jésus, il a vécu cette expérience qu'il relate dans la parabole, dans Matthieu 13. Il a toutes ces actions dont il décrit, donc en l'occurrence, qu'il a trouvé, il a caché, il a vendu, puis il a acheté. C'est tout ce qu'il a fait dans son ministère pour pouvoir s'approprier le champ, pour pouvoir racheter l'humanité, pour pouvoir s'approprier le trésor qui était caché dans le champ. Donc là, on voit clairement dans cette parabole, puis comme dans beaucoup d'autres paraboles, où il y a une dimension où Jésus raconte son ministère. Il décrit son ministère. Et pourquoi je voulais commencer par cette dimension dans cette parabole? Parce que souvent on commence en voyant l'homme de manière raisonnable, où on lit cette parabole et on voit en fait que c'est notre expérience. C'est l'expérience de l'homme et de la femme qui, dans leur vie, à un moment, ils rencontrent l'Évangile. Ils trouvent un trésor, ils rencontrent l'Évangile, et du coup, dans leur joie, ils vont vendre tout ce qu'il a pour acheter justement ce trésor pour s'accaparer l'Évangile. Mais sauf que quand on met pas tout cela dans la perspective de ce que Jésus-Christ a fait, on se rend pas compte à quel point c'est profond. Donc, quand on regarde dans cette dimension où Jésus parle de l'expérience de chaque chrétien, de cette parabole, où le trésor caché fait référence à l'Évangile, et pourquoi le trésor est caché à cause dans 2 Corinthiens, où Paul il dit que si l'Évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, parce que le Dieu de ce siècle, donc Satan, a aveuglé les pensées pour justement qu'ils ne voient pas la resplendissance de l'Évangile, qu'ils ne voient pas la valeur de l'Évangile. Ou encore, la Bible décrit que c'est le cœur de l'homme qui est endurci, qui est insensible et qui, du coup, fait qu'il ne veut pas être guéri et qui ne veut pas que Dieu le guérisse et que Dieu le convertisse pour se rapprocher de Dieu. Fait que c'est la raison pour laquelle la Bible décrit l'Évangile comme un trésor caché, Mais une fois que l'homme le trouve, comme le jeune homme riche, en voyant la valeur de ce trésor, il se rend compte qu'il n'y a rien qui est comparable, qui est trop grand pour justement s'accaparer ce trésor. De la même manière que Jésus, il a vu qu'il n'y a rien qui était trop grand pour s'accaparer les hommes, il n'y a rien qui était trop difficile pour aller chercher les hommes. De la même manière que nous, lorsqu'on rencontre l'Évangile, lorsqu'on comprend l'Évangile, on se rend compte qu'il n'y a rien de trop grand pour Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Donc on va et on vend tout ce qu'on a pour pouvoir acheter ce champ. Et une des choses où justement on a vu tout à l'heure, que on a vu ce que Jésus a abandonné pour pouvoir racheter l'humanité, pour pouvoir vous racheter vous et moi. Et quand on analyse justement tout cela, on voit que Jésus n'a rien abandonné de mauvais. Je m'explique. Lorsqu'on vient à rencontrer Jésus-Christ, à comprendre l'Évangile, la Bible nous dit d'abandonner tout ce qu'il y a de mal, d'abandonner le péché, d'abandonner ce qui est mauvais en soi. Mais là où c'est plus profond, c'est que dans notre cheminement avec Dieu, dans notre expérience, plus on grandit, plus on se rapproche de Dieu et plus on se rend compte que Dieu ne nous demande pas d'abandonner seulement ce qui est mauvais. Mais il nous conduit également à abandonner ce qui est bon pour tendre vers ce qui est excellent. Parce que quand on regarde l'expérience de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas abandonné le péché, il n'a rien abandonné de mauvais. Mais tout ce qu'il a abandonné, c'était de bonnes choses. Mais souvent, nous, on se contente par la grâce de Dieu de mettre de côté le péché. Mais lorsque Dieu veut nous amener d'un point A, du bon vers l'excellent, on refuse de faire ce pas-là. Alors que Jésus-Christ, dans son expérience, il a abandonné tout ce qu'il y a de bon. Pour nous. Alors, peut-être par exemple, un exemple qui me vient à l'esprit, par exemple, ça peut être quelqu'un qui fait une personne qui fait un travail correct, qui un bon travail, et Dieu l'appelle justement à abandonner ce travail pour faire autre chose de plus excellent. Ou quelqu'un qui s'adonne à une activité qui est bonne, qui n'a rien de mauvais, mais Dieu le convainc d'abandonner cette activité pour quelque chose de plus excellent. Donc on ne doit pas se contenter d'abandonner ce qui est mauvais, mais on doit laisser Dieu également nous conduire à abandonner ce qui est bon pour nous conduire à ce qui est encore meilleur. Parce que c'est l'expérience que Jésus-Christ également et surtout a vécu. Quand on regarde de manière globale, les enseignements de cette parabole. On a vu au début que Jésus il décrit un petit peu comment le royaume des cieux fonctionne. Et une fois qu'on décortique justement comment Jésus décrit son expérience, mais également comment cette expérience que Jésus décrit doit être la nôtre, on se rend compte, on va résumer un peu les principes que ça nous donne, que ça nous décrit du royaume des cieux. Donc on se rend, qu'est-ce que cette parabole nous dit du royaume des cieux? Elle nous dit que dans le royaume des cieux, c'est le roi qui donne tout, qui se donne lui-même pour ses sujets. Et ça peut nous paraître fou parce que dans le monde dans lequel on vit, on dit que c'est les sujets qui se donnent pour le roi. Mais Jésus enseigne que dans le royaume des cieux, c'est le roi, c'est lui-même qui se donne pour ses sujets et qui abandonne tout pour ses sujets en premier. Il nous enseigne que dans le royaume des cieux, le roi considère ses sujets plus que sa propre vie, lui-même. Il nous enseigne dans cette parabole que dans le royaume des cieux, il n'y a rien qui est trop grand ou trop élevé aux yeux du roi pour aller chercher ses sujets. Tant le roi, il est dévoué et il aime ses sujets. Et c'est ça le premier enseignement, justement, ou qui nous conduit à un abandon total pour Dieu. Parce que le sujet qui voit ça, le sujet qui comprend cela, ben, en retour, son amour grandit pour le roi. Et en retour, en voyant à quel point le roi il se donne pour lui, eh ben lui il se dit également qu'il n'y a rien de trop grand pour mon roi. Donc je suis prêt à tout vendre pour mon roi parce que le roi l'a fait en premier. Et c'est là où on comprend que lorsque Dieu nous appelle souvent à laisser des choses, à écarter des choses, que ce soit la musique, que ce soit des relations, que ce soit des choses mauvaises ou des choses qui sont pas mauvaises forcément, ben parfois on va être réticent à le faire. Et la question qu'on doit se poser, c'est Est-ce que cette chose-là a plus de valeur que Dieu lui-même? Et est-ce que le roi du royaume des cieux n'a pas abandonné quelque chose d'équivalent, voire même de plus important pour moi-même? Et je pense qu'en réfléchissant, en méditant sur ces choses-là, mais on se rendra compte au fur et à mesure qu'il n'y a rien de, il n'y a rien qui soit trop grand à abandonner pour Dieu, mais qu'il n'y a que de petites choses comparées à Dieu que l'on puisse abandonner. Donc, je vous encourage, c'est une leçon pour chacun de nous, pour moi le premier, justement à garder devant nos yeux comment tout ce que l'expérience que Jésus nous appelle à vivre, il a vécu en premier. Et à quel point on a de la valeur à ses yeux, pour que en retour notre amour pour lui grandisse et qu'on soit en mesure de l'aimer au-dessus de toute autre chose. La Bible dit dans Luc chapitre 12 au verset 34, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que là où on place les choses, là où les choses ont de la valeur à nos yeux, on va y mettre notre cœur. Et la raison pour laquelle Jésus s'est donné lui-même, il a donné tout son cœur pour l'humanité, c'est parce que le trésor de Dieu était dans l'homme. Parce que Dieu voyait l'homme comme son trésor. Et parce qu'il voyait l'homme comme son trésor, il a donné son cœur, il s'est donné lui-même. Son cœur y était lorsqu'il a tout vendu pour lui. Et c'est la même chose que vous et moi, nous devons expérimenter, où Dieu pour nous sera un trésor qui aura une telle valeur qu'on mettra tout notre cœur dedans, comme lui il a mis tout son cœur pour nous. Donc c'est ça l'étude d'aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des questions, peut-être Camille pourrait les partager, puis on pourra en discuter rapidement avant qu'on termine. Comment?
Je regarde s'il y a des questions.
Ok. En tout cas, j'espère que vous avez été béni par la parole de Dieu. Je vous invite à continuer à étudier cette parabole parce qu'il y a plein d'autres choses pour notre enseignement dedans, définitivement.
Amen. Je regarde s'il y a des questions, tu dis ça. Okay.